One, two, sen check. It's okay. That's it.
Provoscopie, l'émission politique de divergence aux commandes le loup, le renard et la belette. Enfin, un loup qui n'a plus de voix, mais ça, c'est pas grave. Et un invité, le candidat à la candidature. L'homme qui voulait forcer le destin pour avoir peut-être une destinée. Un adjoint, un conseiller qui rêve de devenir pasteur, au sens politique du terme, cela va sans dire. Bonsoir Philippe Sorel.
Bonsoir.
Ah, ça va pas être triste, hein. Ensemble nous allons discuter.
Il y a le loup qui murmure.
On va pinailler, on va controverser sur quelques thèmes qui ne peuvent que vous faire réagir. Par exemple, ne serait-il pas temps pour Montpellier de connaître véritablement la démocratie? Une démocratie de proximité à la mode du printemps de la démocratie. D'autre part, nous irons nous promener dans les couloirs de la mairie de Montpellier à la façon de ceux qui écrivaient avant la vie quotidienne, ici ou là, telle ou telle époque. Ce soir, il sera question de la vie quotidienne à la mairie de Montpellier, au temps de Hélène Mandroux. Enfin, Philippe Sorel nous confiera s'il entend avoir un destin ou une destinée sur la cité. Autrement dit, voit-il sa vie plutôt de façon romantique ou romanesque? De quoi passer un bon petit moment citoyen, vous en conviendrez. Et maintenant, place aux palabres, s'il me reste encore un peu de voix.
Vous êtes bien calé dans vos fauteuils, quelques glaçons dans vos verres respectifs. Bon, vous le savez, à Provoscopie, rien ne peut se faire sans l'Uchronie du loup, avec plus ou moins de voix, à vous de voir. Ce soir, il serait question de refonder le pacte social en notre douce France par le biais d'un concept royal, la démocratie de proximité, le tout en gommant la nation au profit du peuple, ce brave démos. Qu'en est-il, le loup ?
Eh bien, en fait, tout avait très mal commencé un certain 17 juin 1789, lorsqu'une brochette de députés aux États généraux inventèrent la nation, alors qu'ils n'étaient que délégués par le peuple. Funeste méprise, vilaine escroquerie politique, que ce fameux serment du jeu de paume, immortalisé par le peintre des faux culs, David. Depuis 9 générations, on pâtit de cette inversion des rôles, d'autant qu'ils osèrent affubler leur république de la notion de démocratie, indirecte. Et c'est cela, oui. Tant et si bien que le citoyen fut gentiment prié de remettre ses pouvoirs à un élu qui gouvernerait non pas en son nom, mais au nom de la nation. Exit le peuple. Cette ville multitude, comme l'a nommé Adolphe Thiers à l'heure de la Commune de Paris. Bien sûr, il ne fut jamais question de mandat impératif pour ces élus de la nation. Ils n'ont de compte à rendre qu'à elle durant leur mandat. Même si, de temps à autre, ils n'ont d'autre solution que de se représenter devant le peuple. Ces jours-ci, alors que la gauche est devenue réellement la détentrice d'un pouvoir local en quête d'une aura globale, les malheureux élus de droite n'en finissent pas de s'interroger sur leur devenir, oubliant que le peuple se confond bêtement avec la nation lorsqu'il s'agit de scrutins nationaux. Autrement dit, c'est le grand bazar. Mais quelques esprits éclairés, qui se défendent d'être des sectimaniens, phosphore de Nantes à Montpellier pour donner à la démocratie ses lettres de noblesse, si je puis m'exprimer ainsi. Il sera question d'oblitérer la nation du sceau du peuple, de donner la parole au fameux démos grec, cette entité singulière faite de la somme des citoyens, et de lui offrir le kratein, autrement dit le pouvoir réel, temporel, terrestre. Et comment ça ? En mettant en œuvre ce qu'il nomme la démocratie de proximité. Une démocratie au cœur de laquelle le peuple aurait le pouvoir, constamment, au jour le jour. Mais avec quel outil, ma bonne dame ? Internet, s'il vous plaît, comme instrument de l'agora. Une révolte, sire, non, une révolution, que ces républicains s'apprêteraient à promouvoir, par démagogie ou par esprit démocratique, à voir, Patrick Vignal nous en parlera certainement, lundi prochain. D'autant que, là est le scoop, il serait question que la chose se répande dans les terroirs français, comme une traînée de poudre, par l'entremise de ces élus locaux, de gauche pour l'essentiel. Et Montpellier d'en être le promoteur. Bien sûr. Encore une fois, tout ça n'est qu'uchronie. Comme d'habitude, si tout n'est pas entièrement vrai, rien n'est tout à fait faux. Et maintenant, place au débat. Mais avant, une petite musique choisie par notre invité, Philippe Sorel. Alors, de quoi il nous a choisi comme musique, Philippe ?
J'ai choisi trois morceaux de musique que j'aime particulièrement. D'abord,
téléphone avec Nouveau Monde. Alors, je ne sais pas si vous l'avez en régie, mais ce n'est pas grave. Si vous ne l'avez pas, j'en ai apporté deux. C'est Pink, Stupid Girl. Et puis, le deuxième, c'est Cranberries avec Animal Instinct. Voilà, c'est deux petits morceaux que j'aime bien. Je regrette qu'il n'y ait pas, téléphone, parce que deux Anglais et un Français, c'était quand même mieux.
Stupid Girl, c'est à propos de qui?
Ah non, j'aime bien Pink.
Ah bon, d'accord, Pink. D'accord. Donc il n'y a personne qui est visé sur ce coup-là.
Ah non, non.
Dans le Lanterne de Montpellier, non, non, d'accord.
Absolument pas.
D'accord, d'accord. Non, non, parce qu'il se dit parfois que. Bon. Ouais. Eh bien, alors, donc, on va écouter le premier petit morceau.
Stupid girl. Stupid girl. Stupid girl.
Chose sérieuse en la compagnie de Philippe Sorel, l'homme qui force les portes du destin pour avoir une destinée. Avec lui, nous parlerons tout d'abord du peuple, si maltraité depuis deux siècles au profit de la nation. Puis, nous déambulerons dans les coursives de la mairie de Montpellier, au temps, jadis, d'Hélène Mandrou. Enfin, nous découvrirons l'homme qui prétend prendre la place d'une femme au nom d'un balancier qui n'osera jamais dire son nom. Tout d'abord, donc, allons au peuple.
Alors, peuple, nation, c'est un espèce de vieux débat. Mais en préambule, permettez-moi de vous donner les définitions de ces deux mots. Le peuple, la nation, prise dans les dicots. Hein. Le peuple existe avant que naisse l'État. Il est avant l'État. Et c'est ce dernier qui crée la nation. C'est l'État qui crée la nation. Et c'est le peuple qui a créé l'État. D'où le 14 juillet, qui commémore non pas la prise de la Bastille, et qui commémore la fête de la Fédération, autrement dit la fête des nations. Et c'est une chose que beaucoup de Français ont oubliée. Quant au peuple, eh bien le peuple, c'est une association mutuelle d'hommes poussés par une certaine similitude de conditions extérieures de vie, une langue commune, des caractères particuliers dus au climat, au milieu géographique. Alors que la nation est le résultat artificiel de la lutte pour le pouvoir politique, au contraire, le peuple, l'appartenance à une nation n'est jamais déterminée. Voilà qui est dit. C'est plus correct de savoir, avant toute chose, de quoi on parle. Alors, Philippe Sorel, adjoint à la mairie de Montpellier, spécialiste de l'urbanisme, baron de Caravette, franc-maçon, maçon, bâtisseur, enfin, tout ce qu'on veut.
Architecte,
grand architecte, enfin petit architecte, on ne sait pas. Bref, comment tu te définis par rapport à la nation? Comment tu te définis par rapport au peuple? Te sens-tu un élu du peuple ou un élu de la nation?
Ben, je me sens tout simplement un élu de la République.
Donc de la nation.
Parce que ce mot n'a pas été utilisé dans la présentation.
Donc le peuple, tu t'en fous.
Pas du tout. Mais il me semble que dans la République a pour but finalement d'organiser la vie du peuple et les fondements de la République sont là pour en témoigner. Il est un exemple tout simple que j'aime à représenter lorsque on me pose ce genre de question qui est finalement comment est-on passé, comment est-on parvenu à cette République qui assure une certaine équité dans les droits.
C'est nouveau ça, l'équité, la grande différence. Il y a une République qui donne une équité.
Les fondements de la République sont basés sur le citoyen et
sur le commerce équitable.
Les fondements dans les caves.
Ce que je veux dire, c'est que lorsque la République est née, je vais prendre un exemple très simple qui donne un aperçu de cela et qui montre bien la différence qu'il y a entre l'ancien monde, l'ancien régime, et puis la République. Et je vais prendre un exemple qui est emprunté à une de mes délégations, qui est celle des archives. Les archives ont été créées par la République. Elles ont été créées après la Révolution française, pour permettre à chaque citoyen de pouvoir contrôler de façon ouverte, publique, le pouvoir exécutif. L'ensemble des preuves d'archives, l'ensemble de l'état civil, des registres notariés, étaient consignés avant la Révolution française dans les familles et également dans les paroisses. Après la Révolution française, c'est devenu un service public. Et donc chaque citoyen a le droit de contrôler, de consulter l'ensemble des pièces qui régissent sa vie quotidienne. Et en particulier, les décisions prises par les...
Sauf le secret défense.
Sauf le secret défense.
Est-ce qu'il ne faudrait pas mieux dire plutôt de consulter.
Sauf le secret défense et
Le citoyen, il a le droit de consulter, pas de contrôler.
Ben si, c'est une façon de contrôler le pouvoir exécutif aussi, de contrôler l'application des lois qui ont été, qui lui sont appliquées. C'est une façon de le faire que de pouvoir consulter l'ensemble des textes qui régissent sa vie quotidienne. En tout cas, c'est dans cet esprit-là qu'elles ont été créées. Et j'utilise cet exemple volontairement parce qu'il est assez facile à interpréter.
Mais alors, entre nation et peuple, tu choisis lequel des deux?
A priori, tu choisis nation.
Balance, c'est vers lequel
je choisis les deux.
Non, parce que la nation, c'est le fait vraiment de la République.
Je choisis les deux. Je choisis les deux parce que les deux choses, pour moi, ne sont pas incompatibles.
Hein. Il y en a une qui est limitative par rapport à l'autre.
Les deux me conviennent parfaitement et correspondent pour moi à des actes différents.
Par exemple,
le fait d'avoir... vous parliez tout à l'heure de démocratie de proximité, de démocratie participative. Ça, c'est une action qu'on a en direct avec le peuple. C'est la consultation par l'intermédiaire des associations, mais aussi des citoyens, de ce que pensent réellement au quotidien sur des projets qui ont été...
ça a un sens, véritablement, la démocratie de proximité.
Ça a un sens dans la mesure où elle est...
C'est pas de la démagogie.
Non, c'est pas de la démagogie. C'est une chose que j'exerce de façon permanente, puisque dans l'urbanisme, je fais à peu près une réunion chaque 15 jours, une réunion publique, chaque 15 jours, 3 semaines, pour... consulter l'ensemble des citoyens sur les projets que l'on propose. Que ce soit des projets pour les nouveaux quartiers, que ce soit des projets de réhabilitation d'anciens quartiers, que ce soit aussi, tout, comme l'autre fois pour le pont Trinca, des aménagements importants de voiries et de qui concernent les transports et les liaisons interquartiers. Enfin, ce sont des choses qui, pour moi, sont tout à fait courantes. Et que je pratique de façon permanente pendant dans mon mandat. Et ce n'est pas un vain mot, parce que ces réunions ont souvent pour but de mettre le doigt sur des usages de la ville qui ne sont pas prédéterminés au préalable par les spécialistes de l'urbanisme ou par ceux qui diagnostiquent les fonctions urbaines. Je vous donne un exemple tout simple. Autrefois, pour la venue de... du pont Trinca, il a été évoqué le problème de stationnement de part et d'autre de l'avenue du pont Trinca, qui avait été envisagé par les services d'une certaine façon et qui, avec beaucoup de bon sens, a été repris et corrigé par l'ensemble des personnes présentes. Et je crois que sur cette affaire-là, nous corrigerons le tir. Je pourrais faire la même chose sur l'avenue Nina Simone. Nous avons largement corrigé le tir après les réunions de concertation. Donc pour moi, ce n'est pas un vain mot. Ceci dit, la place des élus doit rester entière, parce qu'ils ont été élus démocratiquement pour assurer un mandat et mettre en place un programme. Et donc je crois que c'est un subtil équilibre entre les deux choses qu'il faut savoir ménager.
Mais en fait, les élus, ils font ce qu'ils veulent du programme sur lequel ils ont été élus.
Ce n'est pas ma conception de la politique.
Il n'y a pas de mandat impératif.
Non, mais ce n'est pas ma conception de la politique. Je crois que quand on dit quelque chose, il faut le tenir. Ou alors on ne le dit pas. Ou alors on ne le dit pas. On ne dit pas, je vais vous faire ça, et puis ne pas le faire. Enfin, ce n'est pas la façon que j'ai, moi, de voir les choses. Moi, j'essaie... Et vous savez, il y a beaucoup d'enjeux dans l'urbanisme, beaucoup d'enjeux sur les constructions, sur les aménagements, sur la fonctionnalité de la ville. Il y a beaucoup d'enjeux en termes de construction... qui sous-tendent de l'emploi, parce que je vous rappelle que lorsque nous construisons un appartement, nous soutenons directement un emploi. Donc 3000 permis de construire signés par an, c'est le soutien de 3000 emplois directs. Hein. Donc il y a beaucoup d'enjeux autour de cette fonction urbaine, autour de cette délégation, si vous voulez. Et je crois qu'on ne peut pas se permettre de raconter n'importe quoi et de parler pour parler. C'est pas le but du jeu.
Est-ce que c'est l'adjoint qui gère le PLU ? C'est-à-dire le plan local d'urbanisme ?
Le plan local d'urbanisme est un document qui est vivant, qui...
Politique ou électoral ?
Oui, tout est politique dans la gestion d'une commune, mais c'est...
Ah, je le tiens de Georges Frêche. Oui, vous avez expliqué ici, à l'antenne, comment on faisait pour gagner les élections. Il suffisait, à l'époque, c'était le POS, le plan d'occupation des sols. Il suffit d'organiser la chose comme il faut, à savoir de faire construire des logements pour des électeurs potentiels. Autrement dit, Frêche le disait, il faut pas qu'ils soient trop pauvres, sinon ils votent communistes. Il faut pas qu'ils soient trop riches, sinon ils votent à droite. Et pour que ce soit les classes moyennes, des bobos. Et c'était le discours de Frêche. Il y a combien, 7-8 ans de ça ?
Tous les documents d'urbanisme sont des documents éminemment politiques. Bon. Mais outre cela, je crois qu'il y a aussi la conception équilibrée des choses, équilibrée de l'aménagement urbain.
Et mais tu veux pas qu'il y ait trop de riches à Montpellier, ils voteront pas pour toi en 2014. Ou trop de pauvres, ils vont voter NPA. On aurait Hermé comme maire, d'après la Catalogne, ça va.
Quand on modifie un plan local d'urbanisme, cela ne dépend pas uniquement des propositions faites par la ville, qui d'abord sont validées par le maire, sur proposition de l'adjoint. C'est comme ça que ça fonctionne. Mais après, elles sont soumises, ces modifications, à une enquête publique.
Et Madame le maire, est-ce qu'elle y connaît quelque chose, elle, en PLU ?
Ah ben, bien sûr, je ne vois pas pourquoi on ne connaîtrait pas le PLU. De toute façon...
Avec l'agglo, c'est un problème qui dépasse complètement le cadre de la ville, ou qui va être amené à remplacer le cadre de la ville.
Je vais y venir, parce que effectivement, cette question est largement posée. Ce que je veux, pour terminer avec la première partie de la question et de la réponse, bien sûr que les services sont là pour éclairer un maximum les élus quand ils en ont besoin. Les collectivités territoriales fonctionnent de cette façon-là. Moi-même, lorsque je suis arrivé à l'urbanisme, j'ai eu la chance d'avoir beaucoup de proximité avec Raymond Dugrand, qui continue d'ailleurs, puisque j'étais encore avec lui il y a 2 ou 3 jours. Qui m'a instruit du fonctionnement des collectivités en termes d'urbanisme. Donc j'ai eu des cours accélérés, si vous voulez. C'est comme avec les conseils de l'ordre, des cours accélérés d'architecture. Bon, mais il est vrai que aujourd'hui le
DEA de géographie en aménagement de l'espace, c'est avec Dugrand que tu l'as passé.
Avec Raymond Dugrand et avec Jean-Paul Vol.
Donc c'est lui qui t'a formé un peu.
Oui, c'est un bon professeur. Et, hein.
Il a mieux réussi qu'avec Couder, parce que Couder était un mauvais élève.
Ouais. Il avait eu les cours à la mer.
Il allait pas en cours. Oui, donc la question par contre sur l'agglomération est fondamentale. Hein. Aujourd'hui, les villes ne sont plus saintes de murs. Ce sont des villes-territoires. Et donc, les urbanismes de chacune des villes et des cités, des grandes agglomérations et des agglomérations et des communautés de communes doivent avoir, et c'est à cela que sert le schéma de cohérence territoriale, une sorte de cohérence entre elles pour que les aménagements futurs puissent desservir l'ensemble de ces communes. On ne peut pas imaginer qu'une ligne de tramway ne soit pas intégrée dans plusieurs communes sans que les documents d'urbanisme des dites communes soient modifiés.
C'est la loi,
tout à fait. C'est la loi. Mais au-delà de la loi, il y a aussi la volonté de densifier le long des lignes de tram, par exemple, qui n'est pas dans la loi, mais qui tombe sous le sens. Il est bien évident qu'on va fournir un transport collectif non polluant en site propre au maximum d'habitants, qui en même temps rentabiliseront la ligne. Donc, ce genre de mesures, les espaces publics seront travaillés en fonction du passage du tram. Donc, tout cela, toute cette cohérence-là, si vous voulez, elle doit porter sur la commune, mais aussi sur les autres communes de l'agglomération, parce que le tramway est un équipement d'agglomération.
La réflexion aujourd'hui est effectivement au niveau de l'agglo et demain éventuellement d'une communauté urbaine.
Tout à fait d'accord.
Hein,
on peut prendre un autre exemple qui est fondamental, c'est la préservation des espaces verts, c'est la préservation des espaces agricoles, comme le préconise le Grenelle 2, où l'ensemble des terres fertiles doivent être protégées, sorties des zones de construction dans la mesure du possible pour pouvoir faire des réserves foncières pour l'agriculture.
On sera au casino et on entend bling, 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 les voix des verres qui tombent.
Faut remercier Monsieur Borloo.
Ça, c'est pas sûr que les agriculteurs soient satisfaits effectivement d'être réservés à une terre agricole. Hein. C'est pas obligatoire les services qu'on leur a.
J'ai beaucoup discuté effectivement avec des agriculteurs qui expliquent que, et souvent à juste raison, que c'est très compliqué pour eux de travailler des terres qui sont à proximité des centres urbains, ne serait-ce que pour faire passer les engins agricoles sur les routes à
asphaltées. Mais ils ont qu'à aller voir en Belgique comment ça marche.
Mais quand même,
le fait que nous prenions conscience que, à la proximité des villes ou dans les villes, nous souhaitions conserver comme un précieux territoire tout ce qui est lié à l'environnement, précieux territoire qui s'adresse non seulement à la commune, mais aux communes périphériques, ce qu'on appelle des agriparcs dans les schémas de cohérence territoriaux. Ces agriparcs mordent à la fois, notamment sur le sud de la commune, sur le sud-ouest, dans le secteur du Rio Coulon, à la fois sur la commune de Montpellier, à la fois sur la commune de Saint-Jean-de-Védas. Ce sont des grandes landes qui ont été conservées, si vous voulez, à la fois pour la ville de Montpellier, mais aussi pour les communes adjacentes. Tout ça pour vous dire que le sort des communes des agglomérations sont liés entre eux, en termes d'équipement, en termes de transport, en termes de développement économique et aussi en termes de solidarité, puisque le plan d'aménagement concernant le logement s'applique aussi sur les communes de l'agglomération.
Alors, bon, ça, on a bien compris la position quant à la nation de Philippe Sorel, parce que dès qu'on le lâche, deux secondes, il nous parle de la nation et de sa vision républicaine de la chose, et il oublie le peuple. Alors, j'aimerais bien qu'on en revienne au peuple.
Le peuple.
J'aimerais qu'on y revienne. Et donc, le démos grec, Philippe Sorel, comment tu le vois? C'est un singulier, c'est-à-dire c'est un tout, le peuple, ou alors est-ce que c'est l'addition d'une somme d'individus, de citoyens?
Pour moi, le peuple, c'est un tout représentant une somme de citoyens. C'est les deux en même temps.
Il y a la vision marxiste du peuple, où l'individu est même dangereux. Et la vision libérale, où c'est le contraire.
Non, j'ai pas
la... C'est la foule qui devient la vie de multitude entière.
Je pense qu'il ne faut pas ne pas tenir compte des aspirations individuelles. Ce serait une grosse erreur, parce que le fonctionnement aujourd'hui des sociétés montre que l'aspiration individuelle, la liberté de penser, etc., pour moi, est tout à fait respectable et on doit en tenir compte. Mais... Ceci dit, il y a aussi de notre côté l'intérêt général de l'aménagement. Et donc l'intérêt général de l'aménagement, quelquefois, passe un peu aussi sur la liberté individuelle. Donc ce sont des équilibres à trouver.
Il y a quand même une chose dans la définition du loup, là, que tu aurais pu dire, peut-être, Philippe, c'est que sa définition du peuple, là, moi, je ne suis pas tout à fait d'accord. Là. Une certaine similitude des conditions extérieures.
Ah, c'est ça le dictionnaire.
Oui, mais le dictionnaire, il faut qu'il revoie sa définition.
C'est pas le dictionnaire
parce
communiste.
Parce que dans le peuple, aujourd'hui, on est dans l'Europe.
C'est pas aux éditions sociales.
On est dans l'Europe. L'Europe a décrété la mobilité, en même temps des capitaux, des hommes. Donc à partir de ce moment-là, moi, personnellement, je considère dans le peuple aussi bien une addition de nationalité.
Bien sûr.
Donc... La nationalité, c'est une chose, mais parmi le peuple, aujourd'hui, il y a quand même une multitude de nationalités, quelque chose de multiculturel, etc.
Sûr.
Et donc c'est cette expression-là aussi qui doit transpirer, qui doit être prise en compte, dans la gestion d'une ville, dans l'expression du citoyen. D'ailleurs, c'est pour cette raison, je crois quand même que, entre guillemets, l'étranger de la communauté européenne, peut s'exprimer par le vote.
Alors, qui fait partie
Donc, tu n'es pas simplement un élu de la nation française, tu es aussi, quelque part, un élu de plusieurs nations.
Et en l'occurrence, jusqu'au
bout. Merci.
Je me trompe ou pas, là?
Non, mais je réponds...
Les immigrés, les métèques, est-ce qu'ils font partie du peuple?
Mais qu'est-ce que c'est ces mots?
Allez,
moi, je connais que des citoyens.
Allez, Bétec, on
s'en et moi, je ne connais que des citoyens. Moi, je m'adresse aux citoyens, non, je ne regarde pas.
Les immigrés n'ont pas le droit de vote.
Mais ce sont des citoyens.
Mais ils ne peuvent pas voter.
Dans la mesure... Alors moi, je suis pour que ceux qui travaillent, qui payent des impôts, eh ben, ils votent. Voilà.
Et ceux qui ne travaillent pas?
Ben, ça, c'est un... c'est un autre problème. Non, ceux qui ne payent pas des impôts.
Il n'aime pas trop le peuple. Alors.
Non, ce qui est important, c'est sur l'Europe, sur les pays, sur les peuples d'Europe, évidemment. La France est composite, comme la ville de Montpellier. Montpellier est particulièrement composite. Elle a toujours été composite. Elle a été formée par tous les peuples d'Europe, mais même largement au-delà, tous les peuples de la Méditerranée. Je rappelle qu'au Moyen-Âge, Benjamin de Tulède, qui était un chroniqueur, expliquait qu'à Montpellier, on y parle toutes les langues de la Méditerranée. D'ailleurs, les universités de Montpellier ont toujours été très ouvertes à l'ensemble des peuples du pourtour méditerranéen. Donc...
Est-ce qu'ils avaient le choix?
Bah, ou peut-être.
En général, en Languedoc, ça a plutôt été des invasions qu'un accueil véritablement.
Vous savez, je pense que Montpellier tient dans son histoire une, une place très particulière sur la Méditerranée. C'est une ville qui a toujours été ouverte. Pensons uniquement comme exemple à la liberté religieuse, qui n'était pas le fait de toutes les villes à l'époque. Et si on se repenche sur l'histoire et sur l'archéologie, puisqu'aujourd'hui nous sommes en train de fouiller la synagogue Ibn Tibbon, qui se trouve dans la rue de la Barallerie, il faut imaginer que sur 150 mètres, eh bien, il y avait le pouvoir seigneurial, le palais des Guillem, qui se trouve en dessous du palais de justice actuel, la synagogue Ibn Tibbon, qui se trouve à la rue de la Barallerie, et l'église Notre-Dame des Tables, qui se trouve sous la place Jean Jaurès. Sur 150 mètres, il y avait le pouvoir royal et puis les deux communautés les plus importantes de la ville, tout cela vivant, tous ces citoyens de l'époque, vivant en parfaite harmonie, sans compter...
Ça s'est passé moins bien au XVIe siècle.
Ah ben après,
entre
catholiques et protestants.
Il y a eu un peu embrouille. Confère les restes de l'église Saint-Roch.
Oui, jusqu'au siège de Montpellier en 1622, où le pouvoir royal a mis jeté au siège de Montpellier, a demandé au consul de rendre les clés de la ville, bien sûr. Et même, ça a perduré jusqu'à la guerre des Cévennes.
Il y avait encore... du cinéaire, c'est impénétrable.
Ouais. Mais ce que je veux dire, c'est que Montpellier a toujours eu cette façon de vivre avec l'ensemble des peuples de la Méditerranée. Et s'il y a bien une chose qui, pour moi, est un pilier de son développement futur, c'est peut-être celle-ci, parce que ce soit aujourd'hui grâce à Campus, que ce soit aujourd'hui grâce aux pôles d'excellence qui sont développés dans l'université, eh bien, elle peut retrouver à l'échelle mondiale, et elle peut prendre toute sa place à l'échelle mondiale. Grâce justement à ces domaines de prédilection dont elle est dépositaire.
Et un élu du peuple, est-ce qu'il ne devrait pas être soumis au mandat impératif? Autrement dit, j'ai un programme, j'ai été élu sur un programme, si au bout d'un an je ne l'ai pas fait, hop, tu dégages.
Moi, personnellement, j'essaie toujours de faire
ça,
ce que
ça existe au niveau syndical. Non, mais est-ce que ça ne pourrait pas être une loi? Mandat impératif.
Je vais vous expliquer. Je suis chirurgien dentiste de profession. Moi, j'obéis systématiquement au mandat impératif. Lorsque quelqu'un vient me voir, il me demande de faire quelque chose. Il me dit j'ai un problème à régler. Je lui propose une méthode de traitement. Si je ne la règle pas, la méthode de traitement, il va voir ailleurs. Je suis soumis en permanence, moi, dans ma profession, au mandat impératif. Donc j'ai l'habitude de cela. Moi, quand je dis quelque chose, j'essaie de le tenir. Voilà. Sinon, je dis rien.
Et pour terminer, pourquoi est-ce que le peuple ne pourrait pas se gouverner par lui-même? Autrement dit, aujourd'hui, on a l'outil par Internet.
Oui. Alors ça,
et que c'est... les délibérations, on supprime le conseil municipal, les délibérations se font tel jour à telle heure, sur Internet, les gens votent. Et puis, s'il y a un quorum, une majorité, etc., le projet passe, ou sinon, il ne passe pas. À quoi ils servent les élus?
Oui, cette question, elle est très importante parce que Internet, pour moi, bien utilisé, peut être une source de cohésion.
Il faut quand même quelqu'un pour présenter les projets. Après, il faut quand même quelqu'un pour pouvoir compter les voix.
Une administration.
Une administration.
Regarde à mon
pays. Il faut aussi quelqu'un pour les penser, les projets, de demander aux jeunes.
Une administration.
Ceux qui veulent.
Non, mais Internet.
Regardez à Montpellier.
Il n'est pas sûr aussi, les citoyens.
Internet.
À Montpellier, il a suffi de Delacroix et de Cougnac pendant 30 ans pour faire
politique. Internet, c'est un outil formidable qui, bien utilisé, peut rendre beaucoup de services à la démocratie. Et à la conduite des projets librement partagés.
Si l'équipe de France que tu vas envoyer à l'Afrique du Sud, tu demandes aux 60 millions de Français de la composer, ils ne sont pas encore arrivés, les mecs là-bas.
C'est en train de se faire sur le téléphone.
Ça peut être important d'avoir. C'est important d'avoir l'avis des gens, même avec des outils comme celui-là qui, on le sait, quelquefois sont utilisés un petit peu
juste
en déviant.
Juste l'avis consultatif.
Mais pourquoi consultatif?
C'est une question.
Il y a les deux possibilités. Lorsqu'on propose un projet, il n'est pas fini. Moi, lorsque je vais dans une réunion de concertation, on concerte sur une base et puis il y a des choses qui se négocient. La ville, elle est décidée, mais elle est aussi négociée. Et ça, c'est une chose qui me paraît très importante. Et de toute façon, l'ensemble des projets d'urbanisme qui aujourd'hui se développent sur le territoire montpelliérain ne créent et vous le voyez dans la presse, enfin vous ne le voyez pas d'ailleurs, pratiquement aucun problème. C'est donc que quelque part, ils ont été expliqués, ils ont été...
Ça n'est pas un petit bar, par exemple, il y a eu problème.
Non mais attendez, je parle des projets dont je suis responsable, et sur le petit bar, si les problèmes existent aujourd'hui, c'est en grande partie à cause de l'ANRU qui ne tient pas ses engagements et de l'État qui ne tient pas ses engagements. Mais bon, n'en étant pas chargé directement, je ne peux pas aller plus à fond. Mais sur le petit bar, le problème de l'ANRU qui se désengage en cours de mandat est un vrai problème. André Vézinet, président du Conseil général, l'a rappelé ce matin d'ailleurs en séance publique. Il a dit si l'ANRU avait tenu ses engagements, ça aurait été beaucoup plus facile pour nous sur le petit bar.
Pourquoi une fois, il n'a pas parlé de toi?
Non mais je note que ce qu'a dit André Vézinet aujourd'hui, Georges Frêche l'avait dit il y a 3 ou 4 ans.
Alors terminons sur cette affaire-là, entre le peuple et puis la nation, des deux termes, lequel tu choisis?
Les deux.
Non.
Et pourquoi non?
Non.
Et pourquoi non?
Ah, parce que, oh, c'est la règle du jeu. Lequel?
Alors la République.
Non. Entre le peuple et la nation.
Je peux pas décider entre les deux. Pour moi, ils sont partie intégrante de l'action politique.
Alors, lequel tu mets devant?
Un tiercé gagnant avec la République. Un tiercé.
Non.
C'est difficile. Moi, je n'ai pas envie de les classer. Quoi.
Dans l'esprit de Philippe, le peuple et la nation se confondent.
Non classé. Alors là,
dans la République. Dans la République.
Il va être le temps là, d'une...
Si on suit Star Wars, ça vit un pire.
Le temps d'une petite pause musicale que nous a apporté Philippe Sorel. Donc le deuxième morceau que tu nous as apporté.
C'est Cranberries avec Animal Instinct.
Do you?
retour dans le studio de Divergence, dans 93.9 Provoscopie, avec Philippe Sorel, notre adjoint à la mairie, notre grand architecte du jour.
C'est fait,
on peut passer à autre chose.
Sorel Abibis.
Alors, on va passer maintenant à une petite rubrique, la vie quotidienne à la mairie de Montpellier. Au temps de Hélène Mandroux.
C'est chaud, ça.
Parce que tu connais sûrement tout un tas de bouquins qui ont été sortis, La vie quotidienne. Par exemple, À Matignon, temps de l'Union de la gauche. Thierry Pfister.
Céline du temps de Martine Aubry.
Alors, voilà, on peut en faire. Non, ça, c'est pas la même édition. Ça, c'est Martine au cirque. Ça, c'est pas la même chose. Et donc, en l'occurrence, ça fait quand même un moment que tu traînes tes guêtres dans la mairie de Montpellier depuis 1995. À l'époque, c'était Georges Frêche le maire. Comment ça se passait à l'époque de Frêche? Mais dans la mairie, tous les jours, le matin, bonjour, le café, comment ça se passait?
Le café?
Donc je parle.
j'ai jamais connu. Hein.
La vie de tous les jours à la mairie de Montpellier, dans les années 95-2000, à l'époque de Georges Frêche, au quotidien, comment ça se passait?
En 95, vous savez, j'étais conseiller municipal, j'étais délégué aux archives municipales de Montpellier, au restaurant scolaire. Alors,
Déjà, tu étais aux archives.
Non, exact.
Devoir de mémoire, très important.
Donc, il l'avait mis au placard d'entrée.
Je me le réserve.
Donc, en fait...
À l'armée, moi, j'étais au MS aussi.
J'étais souvent à la Tour des Pins, puisque c'était les archives municipales de Montpellier à l'époque, se trouvaient à la Tour des Pins. Et puis, je tournais avec l'ensemble des services dans les différents restaurants scolaires pour voir si ça fonctionnait. Voilà. L'essentiel de mon boulot, c'était là, avec deux missions en particulier que Georges Frêche m'avait confiées, qui étaient très intéressantes à monter. C'était la cérémonie qui, en 1998, c'était le tricentenaire de
la révocation de l'édit de Nantes. Et là, le vieux laïc que tu es.
Et après, à l'an 2000, m'a confié également les...
Petit architecte déjà.
Les cérémonies de l'an 2000. Voilà, donc j'ai eu à...
Mais tu nous dis pas au quotidien comment ça se passait.
Au quotidien, à partir de 1995, j'étais pas au quotidien dans la mairie, puisque les services étaient...
Parce qu'on le dit au niveau de la presse, au niveau journaliste. Ouais. Depuis qu'il n'y a plus Frêche, depuis que c'est Hélène Mandroux, on s'emmerde. Alors que... Et d'ailleurs, on le voit, Frêche, il est plus là depuis ce matin. Déjà, à Montpellier, depuis ce matin, on s'emmerde. Quand Frêche n'est pas là, il ne se passe rien. Alors à l'époque, à la mairie, une petite anecdote, un truc, comment ça se passait, quoi.
Non, mais c'est vrai que Georges Frêche a une personnalité telle que... il occupe l'ensemble des discussions, de l'espace.
La chemise par-dessus le pantalon, pas toujours forcément reboutonné comme il faut.
Mais bon, en 95, enfin moi personnellement, lorsque...
Ça avait même choqué Hélène Manras, de l'héros du jour, on dirait.
J'ai jamais eu, en fait, à comparer les périodes, parce que je n'ai jamais eu les mêmes rôles dans ces périodes-là. À partir de 95, dont je vous disais, j'étais aux archives et puis dans les restaurants scolaires. Et à partir de 2001, j'étais présent au Centre communal d'action sociale, qui n'était pas à la mairie. En fait, je ne suis à la mairie que depuis que j'ai l'urbanisme. Donc c'est
depuis 2008, donc
Depuis 2005, lorsque Hélène Mandroux est arrivée maire de Montpellier. Ouais. Sinon, préalablement, j'étais au CCAS en dehors de la mairie de Montpellier, et lorsque j'étais conseiller municipal aux archives. Donc en fait, sur la vie quotidienne dans la mairie, je ne la connais que sous Hélène Mandroux, puisque mon bureau n'était pas dans la mairie de Montpellier.
Tu l'avais vécu comment, ça, le fait que Frêche ne te donne pas la mairie, il la donne à Hélène Mandroux?
Il était tout à fait normal.
Parce qu'à l'époque, tout le monde le disait, c'est Philippe Sorel qui
avait
la mairie.
Vous savez, moi j'ai l'habitude que les gens parlent, j'ai l'habitude.
Non, mais ça, tout le monde le disait, quoi. C'était pratiquement fait, acté. Et j'ai souvenir de Frêche, ici, dans nos studios, juste avant, c'était au moment des régionales, et disant, non, c'est pas fait, c'est pas acté. Et on l'avait un peu charrié, enfin, en disant, c'est Sorel, quoi. Faut voir, faut discuter, etc. Peut-être tu vas avoir les boules.
Georges Frêche, très logiquement.
Oui, peut-être tu vas avoir les boules.
Je vais y venir après. Et Georges Frêche, très logiquement, a choisi de confier la ville à sa première adjointe, première femme maire de Montpellier, qui était là depuis beaucoup plus d'années que moi-même. Et donc, moi, ça ne m'a pas choqué.
J'espère qu'on savoura comme j'ai créé son première femme Premier ministre et dernière.
J'étais en même temps, d'ailleurs, pris dans les élections, dans le renouvellement des élections cantonales, à la même date. Donc voilà, j'étais pris dans une espèce de truc où finalement les gens parlaient, les journalistes parlaient, les journaux parlaient, tout le monde parlait. Mais moi, je connaissais quand même la réalité des choses.
Voilà. Et alors du coup, tu as vécu ça comme une promotion de passer de la cave
à l'urbanisme. J'ai remercié Georges Frêche de m'avoir confié les affaires sociales.
En fait,
en 2001.
Il t'avait donné les fondations à faire avec les archives. Et après, t'as fait les fondations et la cave, après, maintenant, tu bâtis.
Et j'ai remercié Hélène Mandreau de m'avoir confié l'urbanisme à partir de 2005.
Et tu deviens bien au sixième étage après. Non, on va y revenir, on va y revenir. On va y revenir. Ah, Frêche, il a laissé une ville en plein développement. Tout le monde s'accorde à le dire. Oui. Moi, j'étais à Nice le week-end dernier, notamment avec Estrosi. Je bavardais deux secondes avec Estrosi. Il me dit, vous venez d'où? Je dis, de Montpellier. Je n'avais pas fini de dire Montpellier. Il me dit, Georges Frêche. Frêche a laissé des choses considérables sur Montpellier. Tout le monde en est bien d'accord. Et y compris des projets urbanistiques pour plus de 20 ans. Autrement dit, la nouvelle équipe dont tu fais partie, vous servez à quoi? Vous êtes des gestionnaires. Vous gérez la construction de la ligne 3, puis vous gérerez celle de la ligne 4, puis vous gérerez celle de la ligne 5. Vous finissez de gérer Odysseum 1 et vous allez gérer ou pas Odysseum 2. D'ailleurs, Odysseum 2, c'est le bordel.
Non, c'est pas du tout
le bordel. Le village des marques, là. Elle a un mois pour répondre, là.
Oui, c'est pas du tout, le bordel. Ça, c'est plutôt. Il faudrait poser plutôt la question à Marc Dufour ou à Hélène Mandreau directement. Mais sur le village de Marc.
Allô, Marc,
ça concerne pas l'urbanisme. Pardon ? Ça concerne pas l'urbanisme ?
Pas vraiment. C'est plus une décision de commerce. Après, l'urbanisme suit. Hein. C'est une décision commerciale.
En fait, ça s'inscrit quand même dans un projet. D'urbanisme. Le développement de la ville, j'ai cru comprendre qu'il était dans cette direction.
Si vous voulez,
Comme il y a de logements là, autour d'Odysseum qui doivent se faire.
Il y en a pas mal quand même. Hein. Mais ce que je veux dire, c'est que je reviens à votre question de tout à l'heure qui concernait l'agglomération. Hein, parce que, en fait, la présence des centres commerciaux doit être, à mon sens, évaluée sur un périmètre beaucoup plus large que celui de la ville. Et c'est la raison pour laquelle je plaide pour un schéma d'urbanisme commercial à l'échelon de l'agglomération. Parce qu'aujourd'hui, une grande surface ou un complexe comme celui d'Odysseum est un pilier métropolitain. C'est pas uniquement fait pour les gens de Montpellier. Ça s'adresse aussi à l'ensemble des habitants de l'agglomération et au-delà. Donc je crois qu'il faut raisonner à l'aune d'une périphérie beaucoup plus large, c'est-à-dire d'un territoire beaucoup plus large que celui de la ville.
Pour l'instant, le succès commercial d'Odysseum 1, il n'est pas avéré. Est-ce que c'est sérieux de faire Odysseum 2 derrière?
C'est la raison qu'a développée Hélène Mandreau il y a quelques mois, en disant qu'il fallait attendre un petit peu que Odysseum 1... prennent ses marques, c'est le cas de le dire. Je dois quand même dire...
Remarque le jeu de mots, là.
Ouais, cool. Mais je dois quand même dire que pour ce qui est d'Odysseum et pour en avoir discuté avec le directeur régional d'ICAD, assez peu de marques, finalement, sont en déficit. Il y a quelques enseignes qui ne fonctionnent pas bien, mais c'est assez c'est naturel.
Ce n'est pas les égocogés, hein.
C'est assez. Je rappelle ce que m'a dit ICAD.
C'est vrai que jusqu'à présent, bon nombre de marques réussissent à payer les loyers. Donc à partir de ce moment-là, le promoteur, lui, il peut dire ça tourne, il reçoit les loyers. Et c'est vrai qu'il y en a très peu qui ne payent pas les loyers. Mais il n'empêche pas moins que derrière, quand même. Par rapport entre il y a un gros différentiel entre les chiffres d'affaires en prévisionnel et la réalité.
J'entends.
Donc ça veut dire que est-ce que ça va durer longtemps ou pas?
J'entends, mais on ne peut pas jeter le bébé avec l'eau du bain sur Odysseum, car il n'est pas ouvert depuis très longtemps.
Il s'était jamais vu traiter de bébé encore.
et il a une capacité à fonctionner que beaucoup de centres commerciaux n'ont pas, c'est le passage de la ligne de tram qui vient déverser l'ensemble des visiteurs et les chalands à l'intérieur même du centre. Donc, moi, j'ai assez confiance en Odysseum.
Il y a une ligne de tram qui arrive dans Odysseum. Mmh. Ça, c'est pas mal. C'est plutôt bien, ça, pour amener des clients.
C'est très bien.
Mais dans le même temps, il y a la construction de la 3, qui fait qu'en fin de compte, il n'y a plus personne qui peut arriver de l'extérieur, justement, à Odysseum. Alors, ce qui fait que, justement, pour quelque chose qui avait une zone de chalandise vachement étendue, c'est problématique. Hein.
C'est vrai qu'aujourd'hui, la ville et l'agglomération présentent de nombreux lieux qui sont en travaux. Bon, c'est vrai, mais je crois que...
Bon, de toute façon, il faut passer par là.
Il faut passer par là, voilà.
Et qu'est-ce qui va se passer concrètement? Parce que Fresh a dit, il y a 15 jours, 3 semaines, ouais, à Hélène Mandrou, vous avez un mois, en gros, pour me donner votre réponse. Si vous ne m'avez pas donné la réponse ou si elle est négative, moi je mets le village des marques dans un des villages qu'elle a proposé, à Bagnard, enfin bon, etc. Bon, alors, l'adjoint à l'urbanisme, Philippe Sorel, il en pense quoi? Il est dans quel camp? Il est Fraîche à raison, parce qu'arrive à un moment, ça suffit de tergiverser et puis de faire des minots de riz, surtout à un certain âge. Ou alors, au contraire, elle a raison parce que ça fonctionne pas aussi bien, etc.
L'adjoint à l'urbanisme dans ce cas de figure, c'est avant tout l'avis du maire qui décide. Donc l'adjoint à l'urbanisme, il sera l'avis du maire, tout simplement.
Voilà. Donc, oui, parce
qu'il a le cadre justement de ce qu'on discutait tout à l'heure.
Parce qu'il n'a pas le choix.
Est-ce que c'est cohérent? Si c'est un projet qu'on s'en fait, s'il y a un aménagement au niveau de l'agglo, comme tu l'as défini tout à l'heure, pensé, réfléchi, etc. Comment peut-on, comme ça, là, sur un mois, dire bon, ben, ce qui était prévu là, moi je le déplace, je le mets ailleurs. Là, c'est plus ni concerté, ni pensé, ni quoi que ce soit. Ça fait un petit peu caprice, ça.
Je pense que dans toutes les communes de l'agglo, il y a des territoires qui sont réservés à l'activité économique. Donc, et notamment le long des lignes de tram, ou peu éloigné des lignes de tram.
Il y a plusieurs possibilités d'implantation.
Il y a, à mon sens, plusieurs possibilités d'implantation sur les communes. Bon, après, c'est un choix qui dépend des conditions qui viennent d'être indiquées. Et sur ce cas de figure, bon, je ne vois pas ce que peut dire d'autre que ce que dira Mme Mandrou.
Et alors, au niveau de la vie quotidienne, revenons à la vie quotidienne à la mairie, donc il nous disait, à l'époque de Fraîche, je n'étais pas véritablement complètement présent.
Pas présent dans la mairie.
Dans la mairie.
Dans l'hôtel de ville.
On parle
bien
dans l'hôtel de ville. Dans les locaux, ce qui n'est plus le cas maintenant. Alors, comment ça se passe au quotidien? C'est-à-dire, nous, on entend parler de l'extérieur, donc on ne rentre pas à la mairie. Parce que maintenant, pour rentrer à la mairie, pour gravir les étages de la mairie, il faut des badges, des choses comme ça, un badge pour aller au 3e, au 4e, au 5e. Enfin, à l'époque de Fraîche, j'ai souvenir, peut-être monté je ne sais combien de fois au 5e et au 6e, je rentrais à la mairie, bon, je prenais l'ascenseur et je montais. Là, maintenant, là, c'est plus possible. Donc là, le peuple n'a plus accès à Mme le maire, ça c'est clair. Bon. Alors, au niveau du cabinet, on entend dire de tout, le cabinet noir, machin, Assaf, Zanquiello, jambon, sandwich, enfin c'est le bordel. Bon. Comment ça se passe au quotidien et comment ça se passe avec le gourou de Mme le maire?
Alors moi, je n'ai pas accès aux hautes sphères. Hein. Je suis...
Tu n'as pas le droit d'aller au 6e étage?
Si, j'ai le droit. J'ai mon badge.
Tu n'as pas le badge?
Mais je n'ai pas accès aux hautes sphères de décision. J'ai accès...
Tu es obligé de prendre rendez-vous pour le voir?
Non, mais j'ai accès au 4e étage, qui est l'étage des élus, que je fréquente assidûment avec quelques-uns de mes collègues. Avec lesquels je travaille en priorité. Donc, vous savez, l'urbanisme, c'est un...
Non, mais hors de l'urbanisme, au quotidien, tu la crois, tu l'as déjà vue, Hélène Mandrou?
Bien sûr, oui. Quelle question.
De quoi? Dans l'ascenseur?
Oui, dans l'ascenseur, dans le parking, dans le parking, dans l'ascenseur, dans les couloirs... On se rencontre.
Et là, comment ça se passe? Le café, au moins le café, c'est sympa. On bavarde. Non, mais on bavarde de façon décontracte, ou au contraire, non, c'est Madame le maire, on ne la dérange pas qu'elle est sainte par son cabinet.
Non, tous les élus, vous savez, et le personnel, souvent, on est un peu... On est... On est un peu speed parce qu'on est entre deux lieux souvent, et donc on salue, on dit un mot, quand on a un truc à dire, on le dit, et puis voilà, c'est tout simple. C'est tout simple. Moi, j'ai pas de soucis, là.
Pas plus. Et t'entends pas, parce que je sais pas, on entend des portes qui claquent,
des portes qui claquent,
des coups de colère, des trucs.
D'abord, dans l'hôtel de ville, les fenêtres ne s'ouvrent pas. Donc, ça ne risque rien.
D'accord. Donc, un suicide, non, il n'y aura pas de suicide sans ce coup-là. Bon, d'accord. Et là, au lendemain des régionales. On a vu les élections régionales. On va pas reparler des régionales en tant que telles. Mmh. Mais du score de Hélène Mandrou et du score de Georges Frêche sur la ville de Montpellier, c'est sans appel. 11% d'un côté, 41% de l'autre. Je parle du premier tour.
Oui, oui.
Frêche a exagéré après au deuxième tour où il a fait 60 et quelques pourcents. Bon, évidemment, Mandrou y était plus. Mais bref, au premier tour, c'est 11-41. Il n'y a pas photo. Une maire, enfin, une ou un maire hein, de sa ville, je crois que c'est le plus mauvais score de toutes les villes de France, historiquement, faire 11% dans sa ville pour une élection qui n'est pas la sienne, certes, mais et encore que qui n'est pas la sienne, elle était quand même tête de liste. C'est une véritable catastrophe. Je ne veux pas croire que au sein de l'équipe municipale, il n'y ait pas eu quelques phrases assassines ou quelques remue-ménages quelconques. C'est peut-être ça qui a motivé un certain 12 avril, un chirurgien dentiste du côté d'Antigone, de se positionner.
En premier lieu.
J'avais pas vu la chute.
Il y a travaillé.
Non, ce qu'il faut savoir, c'est que... Bon, moi, dans l'élection...
Quand même de ce qu'il va dire. Hein, parce que,
dans cette élection...
C'est ce qu'on dit. Hein.
Oui, menteur comme un arracheur de dents. Voilà. Mais
c'est pas moi qui l'ai dit.
Moi, dans cette élection régionale, je me suis positionné très tôt. Ça n'a pas été une sinécure, ça n'a pas été une position facile, parce que, étant adjoint d'Hélène Mandrou, qui était candidate à la région et maire de la ville, je me positionnais pour Georges Frêche, qui était président de l'Aglo, qui était d'hiver gauche. Voilà, donc. Mais j'ai considéré que.
Mais c'était facile, parce que t'étais pas virable, du PS.
Ouais, pas virable, on est toujours virable.
Oui, non, mais. Sur ce coup-là, quoi.
On est toujours virable. Je l'ai pas vu comme ça. Je l'ai vu parce qu'il me semblait que pour la région, c'était la meilleure solution, parce que le bilan était bon.
C'est pas une façon de mettre en cause la légitimité du maire actuel.
Vous savez, moi, j'ai toujours été fidèle à...
Est-ce qu'elle a dit qu'elle se représenterait ou est-ce qu'elle a dit qu'elle ne se représenterait pas ? Je ne sais pas.
Elle a dit qu'elle se représenterait. Elle a d'abord dit qu'elle ne se représenterait pas, puis elle a dit qu'elle se représenterait. Bon, chacun a... il faut... On parlait de démocratie tout à l'heure. Chacun a le droit de parler, quand même, dans ce pays. On peut quand même s'exprimer,
oui, se positionner. Ça la théboarchie de la démocratie.
Voilà. Donc... Moi, le problème des régionales est un problème sur lequel j'ai pris effectivement quelques risques politiques, parce que je me suis positionné au-delà de ce qu'on me demandait de faire, parce qu'il m'a semblé que la cause était juste. Et d'ailleurs, les électeurs ne s'y sont pas trompés, parce que quand on gagne, il y avait 61% au deuxième tour et 41% au premier. Je ne suis pas le seul à penser de la sorte. Donc... j'ai considéré que c'était mon devoir de faire cela.
Et puis parce que l'année prochaine, il y a les cantonales.
D'autant que... Non.
Donc il faut peut-être bien se démarquer aussi.
Justement.
D'autant que Georges Frêche m'a donné ma chance en politique, m'a pris sur la liste en 1995, et que personne ne me fera aller contre lui. Toi, voilà. Ouais, c'est très clair.
Justement, très si, clair. Si tu considères... Si tu considères que la cause, comme tu le dis, était juste, tu t'es positionné en conscience. Bon,
c'est voilà. Bon.
Maintenant, justement, à contrario, est-ce que tu crois que c'est pas... comme en fin de compte, justement, Georges Frêche a été élu brillamment. Est-ce que tu crois que tirer des conclusions sur un résultat sur une ville, même de Montpellier, ou quand Georges Frêche a été maire pendant... Je ne sais combien de mandats.
Ans,
quatre mandats, je crois, c'est
ans.
Ça hein.
Plus que ça.
Quatre ou cinq mandats. Hein, bon. Donc à partir de ce moment-là, est-ce que tu crois que c'est juste, justement, avec cette intériorité, le fait qu'il y avait une cause qui était défendable, voire juste, etc., de tirer des conclusions sur la perception que peut avoir le Montpellierain de la municipalité d'aujourd'hui.
En fait, la municipalité d'aujourd'hui, enfin, le Montpellierain, dans cette élection régionale, comme je l'ai été moi, a été sensible à une certaine injustice. Il y a eu l'injustice notamment de Martine Aubry, qui est venue au-dessus et contre le vote des militants imposer la candidature d'Hélène Mandroux, qui a accepté.
Donc antidémocratique, là.
Est-ce que tu es d'accord avec moi, c'est qu'éventuellement, c'est une idée, ouais. Éventuellement, dans le vote pour Georges Frêche dans les murs de Montpellier, c'est pas obligatoirement un vote contre Mandroux. C'est avant toute chose un vote pour Georges Frêche, mais c'est pas obligatoirement un vote contre Mandroux.
C'est un vote. C'est un vote pour Georges Frêche qui.
C'est l'analyse du chef de la pub de l'Héros du jour.
Qui valorise sa capacité aussi à avoir fait gagner Hélène Mandroux en 2008.
Exactement.
Et à la faire perdre
pour les municipales.
Oui, bien sûr.
Voilà.
Alors, c'est aussi une réalité, effectivement.
C'est une réalité. Ça, c'est une réalité.
Il se dit dans le Landerneau, dans le Clapasse à Montpellier, qu'en fait, Philippe Sorel, la mairie en 2014, bien sûr que c'est une échéance, mais qu'en fait, Philippe Sorel, il a un but, c'est en 2012, il veut être député.
On me prête beaucoup d'intentions, je suis ravi. J'en suis ravi, je remercie tous les supporters.
C'est pour ça que tu cuisines.
Il n'y aura pas d'intérêt.
Je remercie les supporters, les aficionados.
En plus, on commençait par les cadres scolaires. Alors, on peut te cuisiner quand même.
en plus, ça ne serait pas étonnant, puisque il est beaucoup plus pour la nation que pour le peuple. Donc, être député de la nation. Je crois que ça te conviendrait tout à fait. Et non, mais c'est ni une critique ni quoi que ce soit.
Ouais.
T'as envie d'être député.
Je crois que.
Non, mais ça te plairait.
Je crois qu'il faut ça d'abord. Te plairait. Je crois qu'il faut
ça
d'abord.
Te plairait.
Oui ou non.
Je crois qu'il faut d'abord.
Oui ou non.
Assurer les.
Ça te plairait ou ça te plairait pas d'être député.
Il faut voir les choses. Non, mais moi, je ne suis pas dans cette façon d'organiser ma pensée. Aujourd'hui...
Non, mais en soi...
Dans 6 mois, je suis a priori... Si les militants me donnent l'occasion et me font confiance, je serai candidat...
S'il te plaît, Philippe, est-ce que tu veux bien être député ?
Candidat sur le 3e canton de Montpellier, dont je suis actuellement le conseiller général. Et puis, au lendemain des élections cantonales, on en reparlera. On verra comment se situent les choses et comment l'histoire politique du secteur a évolué.
Et quelle circonscription ?
Quelle circonscription tu vas prendre ? La première ?
Ah mais moi, je n'ai pas parlé de députation. J'ai parlé uniquement de cantonal.
Alors, quelle circonscription tu prendrais ? La première ?
La première, la deuxième, la troisième. Je ne connais pas. D'ailleurs, je ne les connais pas toutes depuis qu'elles ont été.
Déjà, tu peux rencontrer Domergue plus tôt.
Jean-Jean veut battre Domergue, donc Domergue sera affaibli.
Non. Il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs.
On transmet à François. Si François veut faire un débat, Philippe Sorel et Domergue, et pas avant 2012. Mais ça devrait pouvoir le faire d'ici
peut-être
là.
Peut-être Jean-Jean, parce que Jean-Jean veut battre Domergue quand même. Hein, et c'est Jean-Jean qui maîtrise la première.
Non, il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs.
Une histoire de libanisation n'est rien qui n'est pas négligée.
Aujourd'hui, ce n'est pas du tout le calendrier. Le calendrier, c'est les cantonales. À partir de septembre, c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, je me suis déterminé maintenant pour dire que je serai éventuellement candidat à la candidature en 2014.
Alors, on va terminer là-dessus. Au niveau des cantonales, donc tu es candidat au cantonal pour une réélection.
Candidat à la candidature aussi.
Oui, on va au même.
Moi, je ne passe pas sur le vote des militants.
On a remarqué que de temps en temps...
Je ne marche pas sur les militants.
On a remarqué que de temps en temps, tu étais démocrate. Mais au niveau du vote des militants.
Oui.
On se contrôle.
Au niveau cantonal, tu te représentes avec effectivement un bilan. Alors, premièrement, c'est quoi le bilan ? Et deuxièmement, c'est quoi le programme ? Si tu te présentes, je suppose, pour dire si vous votez pour moi, je ferai ci ou ça. Parce que Vézine dit Philippe, comment ? Je ne connais pas, on ne le voit jamais au Conseil général.
Oui, en fait, les élections, ça ne se gagne pas au Conseil général, ça se gagne sur le terrain, ça se gagne sur la place des Beaux-Arts, ça se gagne à Antigone, ça se gagne à l'Aiguelongue, à Mermoz.
Pourquoi vous n'avez pas les mêmes horaires avec les...
Donc, ça ne se gagne pas au Conseil général. Par contre, si on s'amuse à regarder le nombre de sessions auxquelles j'ai participé, on sera très surpris de voir que une seule fois, peut-être, dans l'année, je suis absent.
C'est quoi le programme ?
Il faut faire attention à ce qu'on dit. Surtout lorsque, à l'Assemblée nationale, on a déjà été réprimandé, et je parle là pour André Vézinet, sur son manque de présence. Donc, il faut faire attention. Voilà.
Très important.
Loulou va conquer.
C'est pas parce que là, en l'occurrence, donc... tu dis que Vézinet, du coup, cumule des mandats, et puis...
c'est pas moi qui le dis, c'est l'Assemblée nationale.
Voilà. Mais là, pourquoi tu veux être député aussi?
J'ai pas dit ça.
Jamais cru comprendre.
Alors, sur le programme, parce que ça, c'est important.
D'abord les cantonales, après la députation.
Alors, sur les cantonales, de façon assez générale, les départements ont des compétences qui sont... en grande partie le social, puisque plus de la moitié du budget du département est consacré au social. Bien sûr que je pourrais dire le social, je pourrais dire les collèges, dont certains se trouvent sur le troisième canton de Montpellier. Je pourrais dire aussi les routes. Bon, OK. Mais là n'est pas l'important. Il me semble qu'être membre d'une instance comme un département peut permettre aussi d'avoir des positionnements politiques qui sont, au niveau de la nation, importants. Que ce soit pour...
Il l'a placé.
Que ce soit pour...
Le peuple ne sert qu'à le faire élire.
Que ce soit...
Après, ils s'en foutent.
Pour... justement pas. Parce que ce soit pour la protection des... et la maintenance des services publics, que ce soit pour, notamment pour tout ce qui concerne la protection de l'enfance... vous savez qu'on a eu, on en avait déjà parlé sur l'antenne d'ailleurs, sur toutes les lois qui avaient été édictées par le gouvernement concernant la prévention de la délinquance, etc. Ce sont des enceintes qui permettent de faire passer des idées importantes. Sur le terrain, il y a des choses qui sont plus faciles à gérer lorsqu'on est conseiller général, puisqu'on possède des petites enveloppes permettant de travailler avec les associations du secteur, de travailler aussi sur des aménagements, en partenariat d'ailleurs avec la ville. Moi, je m'étais fixé, lorsque j'étais conseiller général, de financer tous les jeux de cours dans toutes les écoles du canton. Il y a 28 000 habitants, c'est grand comme Lunel à peu près. Ben, ça a été fait. On a financé d'autres structures en dur aussi. Bon, ça permet des petits aménagements qui sont utiles pour les citoyens. Voilà. Et puis, c'est une enceinte où on peut discuter des grands problèmes d'aménagement, des grands problèmes de protection de l'environnement, etc.
Quand on était comme toi, là, adjoint à l'urbanisme d'une ville métropole comme Montpellier, je pense que tes positions au niveau de l'agglo... Ouais. C'est y compris, tu es favorable à ce que la ville, enfin que l'agglo aille vers une communauté urbaine. En même temps, est-ce que ce n'est pas en contradiction
si.
Avec le fait de siéger au Conseil général qui est amené à disparaître. D'ailleurs, et qui disparaîtra à la fin de ton mandat. Parce que là, tu vas te faire élire pour 3 ans. Mais, c'est ça, en fait, si la loi est appliquée. Quoi.
C'est pas... C'est pas contradictoire en soi. Ce qui est contradictoire et qui, à mon sens, est une faute politique, c'est que les départements n'affichent pas assez les travaux d'aménagement dans les villes. Aujourd'hui, 80% de la population en France vit dans les villes. Et ne pas tenir compte dans l'aménagement de cela, pour moi, est une faute politique. Parce que leur... visualisation par le public n'est pas évidente. Et si vous posez la question dans une ville à un passant, quel qu'il soit, qui est votre conseiller général, personne ne vous le dira. Parce que les cantons urbains passent complètement inaperçus.
Ce qui est moins vrai d'ailleurs dans les cantons urbains.
Tout à fait. Face à l'action municipale. Cela veut dire qu'il y a 80% des élus cantonaux qui travaillent dans les villes, ou 70% qui travaillent dans les villes. Et je crois que ne pas fixer l'objectif d'un département dans les villes, sans pour autant oublier le rural, c'est pas ce que je veux dire. Mais il y a quelquefois des choix politiques à faire qui me paraissent frappés du sceau du bon sens, parce que même si le département soutient le rural et il a raison de le faire, même si le département a comme compétence majeure la solidarité, à mon sens, il doit être aussi pour le développement économique, et les grands équipements des villes sont des atouts incontournables pour le développement économique.
Bon, on a fait la vie quotidienne à Montpellier. Autant, non pas du nom de la gauche, mais de Hélène Mandrou. On va faire une toute petite pause musicale et puis on va après demander à Philippe Sorel s'il se voit plutôt un destin ou une destinée. On va en discuter. Sur le 93.9 en compagnie de Philippe Sorel, le candidat à la candidature, est donc en l'occurrence, et on va s'interroger pour savoir ce garçon, est-ce qu'il aurait plutôt un destin ou une destinée. Alors c'est vrai que quand on regarde un peu son parcours, sa vie, son œuvre, un père violoniste, il se met à faire du violon. Ça a dû grincer sérieusement à la maison. Moi, j'ai une sœur qui est violoniste. J'ai souffert, mais alors terriblement. Et t'en joues encore du violon ?
Oh, j'ai arrêté, mais j'ai toujours mon violon chez moi.
Et t'as réussi à faire autre chose que de le faire grincer ?
Bien sûr, ouais.
Bien sûr, c'est pas évident.
Non, mais je me suis arrêté au conservatoire avant le cours supérieur. Mais bon, après, j'ai arrêté. Mais de temps en temps, j'ai...
T'as pas préféré vous faire du pipeau ?
Non, du foot. J'ai arrêté du foot. Mais par contre, souvent, je le sors de son étui et je le touche. Parce qu'un instrument... La musique, c'est une affaire d'amour. Et l'instrument de musique, pour quelqu'un qui a été initié à la musique... C'est aussi une histoire d'amour, c'est une histoire de toucher, c'est une histoire de vibration. Et donc même quand on ne joue pas, on a envie de le tripoter.
Gabriel Fauré, le requiem de Gabriel Fauré, tu connais ça,
Oui, mais là, je ne suis pas capable. Hein. Il faut raison garder. Moi, ça serait plutôt le canon de Pachelbel, la nuit de Rameau, enfin bon, voilà. Mais ça s'arrête là. C'est pas...
Ah ouais, si on regarde au niveau de tes études.
Quand marché, il préfère les pointes.
Quand on regarde le niveau de tes études, t'as fait un peu n'importe quoi. T'as fait un bac A, après le bac A, c'est-à-dire littéraire, qu'on dirait le bac L aujourd'hui, tu fais dentaire, sortant de dentaire, tu fais un doc d'histoire. En même temps, tu fais un DEA de sociaux, de géo en aménagement du territoire. Bonjour du grand. Et là, on parle déjà une petite idée de maire de Montpellier, là. Après, tu deviens dentiste à Antigone, tu fais une thèse d'histoire. Sur quoi ? Non, pas sur quoi. Avant de dire sur quoi, avec qui ? C'était qui ton directeur de thèse ?
Gérard Cholvy.
Oh !
Eh oui !
Cholvy, qui a dirigé une thèse sur les loges maçonniques de Montpellier. Attendez, lui apprendre beaucoup de choses, alors. Parce que les réseaux, il n'a jamais su que c'était Cholvy.
Non, mais c'est... On a beaucoup travaillé sur...
En vieux cateau qu'il était, Gérard Cholvy n'a jamais su que c'était qu'un réseau. Même protestant, il ne comprenait pas, quoi.
On a beaucoup travaillé sur le temps des Lumières, quoi, hein, c'est-à-dire sur le 18e siècle.
On t'a dû lui apprendre des choses extraordinaires.
Non, mais c'est passionnant, surtout quand on travaille sur les archives nationales que j'ai fait micro-filmer et qu'on m'a permis d'avoir et de posséder chez moi pour pouvoir les analyser, donc... j'ai d'ailleurs ce patrimoine présent, toutes les loges maçonniques de Montpellier du 18e siècle.
Ça s'est bien passé avec Cholvy.
Parfaitement bien.
Ouais. Ouais.
Ouais.
Et au niveau du jury et tout, il y avait qui ?
Mais j'ai pas passé ma thèse d'histoire. J'ai fait 3 ans de thèse d'histoire, ouais. Mais une partie a été publiée dans divers recueils, sous forme d'articles, tout simplement.
Ah, t'as pas soutenu ?
J'ai pas soutenu.
D'accord, ouais. D'accord. Bon, après PS, conseiller municipal, conseiller général. Adjoint à l'urbanisme, candidat à la mairie.
Les archives, c'est cohérent.
Oui.
L'urbanisme aussi.
Oui, non, mais tout à fait, tout à fait. Voilà. Destin ou destinée ? Parce qu'en fait, Philippe Sorel, on le connaît un peu. Et rapidement, on se demande, mais ce garçon, c'est quoi ? C'est un romantique ? Ou alors, est-ce que ce serait pas une espèce de héros romanesque ? T'es un mec tiré d'un roman, style 19e siècle, Flaubert. Ou alors est-ce qu'il est vraiment romantique ?
Là, il va choisir.
Alors, entre les deux, il choisit quoi ?
Entre romanesque et romantique ?
Ouais.
Ah, je préfère romantique quand même. Il n'y a pas photo.
Alors, plutôt gaulliste que mitterrandien. C'était la thèse d'Alain Duhamel dans Portrait d'un artiste. Duhamel présentait De Gaulle comme étant le romantique, l'homme de l'épopée, etc. Et Mitterrand, un héros de roman.
Oui, ça ne me dérange pas d'avoir le général De Gaulle comme référence.
Mieux que Mitterrand.
Non, j'aimais bien aussi les engagements de Mitterrand, mais c'est vrai que De Gaulle a pour moi une image, une aura dans le public qui est différente de celle de Mitterrand, qui... à laquelle j'ai aucune honte, même beaucoup de,
oui, ben, si
de joie à m'entendre.
Et si on regarde,
parce que le romantique, comparé, il y en a un qui a une vie plus linéaire que l'autre.
Et le romantique. le romantique, il incarne le destin. Et le romanesque, la destinée.
Hein, mais je crois que...
Et en l'occurrence, le romantique, il incarne le fatalisme. Et la destinée, le romanesque, incarne l'idée d'être investi d'une mission. Alors, c'est pour ça que je m'étonne. Parce que quand tu as la candidature en 2014, est-ce que tu le sens comme une fatalité, un poids énorme qui t'est tombé dessus, il faut que j'aille à la mairie, Ou est-ce que, au contraire, tu te sens investi d'une mission?
Oui, non, c'est
ça,
pas...
c'est plus romanesque. On est plus dans du Flaubert que dans autre chose.
Oui, c'est pas du tout. Oui, c'est plutôt la deuxième chose qui me convient le mieux. C'est plus une mission qu'autre chose. C'est un engagement. C'est,
donc romanesque.
Ouais. Si c'est là la différence, oui.
Ah, c'est,
je commence par le romantique et je finis romanesque. Ah. Oui, mais c'est pas mal.
Il va m'obliger à en faire une autre conclusion. C'est un romanesque à l'esprit romantique.
C'est pas mal. On est jamais vraiment noir ou blanc, on est toujours un peu mêlé.
Et il y en avait qu'on finit rouge et noir sans ce coup-là. On ne citera personne. Et autrement dit, laquelle mouche t'a piqué là? Parce que le 12 avril, tout d'un coup, Philippe Sorel, pouf, déclaration à la presse. Communiqué de presse.
L'année. Dans le jour, c'est pas allé, mais c'est
la question, c'est pas pourquoi tu pars si tôt. Ma question, c'est tout simplement pourquoi tu pars.
Parce que je pense que...
Pas si tôt, mais juste pourquoi tu pars. Pourquoi tu veux être maire de Montpellier? Parce qu'il y en a plein d'autres qui le veulent. Laisse-moi la place.
Parce que je pense que je peux être utile pour la ville, pour les Montpelliérains.
Il en rêve. Pourquoi tu veux?
Oui, mais ça, c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal que d'autres que moi aient des aspirations du même ordre. Donc, moi, ça ne me choque pas du tout.
Y compris Hélène Mandroux.
Ben, bien sûr. Bien sûr. Alors, y compris Georges Fraîche.
Oui, c'est ce qu'il a dit.
Hein.
Donc, moi, ça ne me choque pas du tout.
Si Fraîche dit je suis candidat, tu restes candidat?
Ben, il a dit qu'il était candidat, mais on en parlera quand... Là, j'ai pris date, finalement. Et puis, il y aura une... il faut d'abord passer les cantonales, les législatives, les présidentielles, les européennes, les sénatoriales. Et enfin, on arrivera... au vote des militants pour les municipales. Donc on a le temps d'y réfléchir. Moi, j'ai pris date pour exprimer un souhait, pour exprimer une pensée qui m'est chère, à laquelle, d'ailleurs, j'ai eu de nombreux signes et appels du pied, à la fois de Georges Fraîche et puis de beaucoup de gens qui m'en ont parlé aussi. Mais c'est pas pour cela que je leur ai téléphoné pour leur demander conseil. Je l'ai fait parce qu'il m'a semblé bon de le faire à cet instant-là.
Mais ton moteur, voilà.
C'est romanesque.
Et justement,
c'est une histoire d'amour peut-être.
Et justement, c'est tellement romanesque. Est-ce que ton moteur, c'est pas tout simplement le pouvoir? Le pouvoir.
Pour moi, le pouvoir n'a pas un aspect péjoratif dans la mesure où il s'exerce avec discernement et il est définitivement voué à l'intérêt général. Donc pour moi, le terme de pouvoir ne me gêne pas.
Ça existe, ça, vraiment, le pouvoir dédié à l'intérêt général?
Bah oui, heureusement.
C'est la langue de bois, ça.
Mais non, pas du tout. Pas du tout. Si les villes, aujourd'hui, sont des villes, si les démocraties sont des démocraties, si les républiques sont des républiques,
c'est parce qu'il y a eu des grands architectes. Non, je ne le crois pas.
C'est que, quelque part,
je le crois pas.
On est allé dans ce sens, quoi. Et ceux qui précèdent aussi, donc...
C'est un désir de vouloir marquer l'histoire, de vouloir accéder à ce...
Ou un faux appel pour négocier l'agglomération.
Non, je pense...
À être un gros paragraphe dans le futur bouquin sur l'histoire de Montpellier de Gérard Cholvy, juste avant qu'il décède.
Non, je pense avant tout aux Montpelliérains et aux Montpelliéraines à qui j'ai envie de donner plus que ce que je donne aujourd'hui.
Dans quel ordre tu le mets? T'as dit Montpelliérains et après Montpelliéraines?
Ouais, les deux.
Et quelles sont tes visions, toi, Philippe?
Parce que, pour le programme?
Non, parce que... Si je prends Georges Fraîche, qui a été longtemps le maire de Montpellier, moi je me souviens, il y a très longtemps, dans les années 80, il avait un petit peu étonné l'assistance à ce moment-là, en disant qu'il voulait faire de Montpellier un port, et qu'il voulait amener Montpellier à la mer, puisqu'il ne pouvait pas amener la mer à Montpellier, il n'y avait pas les inondations, les réchauffements climatiques à l'époque. Donc à partir de ce moment-là, bon, c'est un homme qui avait une ville...
Oui.
Et une vision, Fraîche, tout l'urbanisme et tout Fraîche, le travail qu'a fait,
la chanson de Renaud,
que tous ont
c'est
fait
pas
derrière
la mer
lui,
qui prend l'homme, c'est l'homme qui prend la mer.
Est allé dans ce sens-là. Bon, et donc, il y avait un projet, une continuité, etc. Donc, vouloir être maire de Montpellier, c'est que tu dois avoir aussi tes visions.
Le premier qui a eu cette idée, c'est pas Georges Fraîche, c'est Jules Pagési, le maire du protestant du 19e siècle. Et celui qui a créé la rue Fauche, c'est lui qui voulait amener Montpellier à la mer. Et c'est un projet qui a été repris après, par la suite, par Georges Frêche.
Les chasses de Baron Haussmann de l'époque.
Quoi. Et voilà, et Raymond Durand.
Qui faire et je considère que ce projet est...
Il faut le terminer.
Il faut en créer une grande partie. Parce que justement, on est encore une fois dans la problématique d'agglomération et de ville-territoire, dont on parlait tout à l'heure, et que c'est à partir des outils mis en place par les agglomérations qu'on pourra répondre à cette question-là de façon prégnante.
Une avant-dernière question. Philippe, tu le revendiques, que tu es un homme de réseau.
Franc-maçon. J'ai jamais dit ça, moi.
Non, mais franc-maçon.
J'ai jamais dit que j'étais un homme de réseau. C'est vous qui le dites, journaliste.
Que tu es franc-maçon, tu le dis.
Moi, je suis un homme de contact. J'aime les êtres humains.
D'autre part, bon, premier consul des barons de Caravette. Est-ce que tu crois
ça y est, les barons de Caravette, c'est un réseau.
Vous êtes nombreux.
Et pour être élu à la mairie de Montpellier, c'est un atout ou un handicap, ça?
Je me suis jamais posé la question. Moi, je fais les choses par conviction. Moi, je soutiens tous les engagements que je prends et je les honore et je les dis très haut et très fort. Parce que je n'aime pas la vie cachée. Donc mon coming out, comme on dit certains, c'est ça aussi, c'est être transparent, être clair. Je dis les choses comme elles le sont. Je les dis pour les francs-maçons, je les dis pour les barons, je les dis pour la mairie de Montpellier. Ça ne me gêne pas du tout. Je suis fier de tous mes engagements et je les assume.
Et les vénés du coin, ils sont d'accord.
Les
vénérables du coin, des différents chacun, ils sont d'accord, ils te soutiennent.
Chacun est susceptible de pouvoir...
Il y en a au moins
pouvoir...
qui te soutient. On citera pas son nom, mais...
Chacun est susceptible de pouvoir se dévoiler s'il le souhaite.
Du côté de Saint-Côme, là.
Voilà. Donc, voilà. Moi, j'ai pas de honte à faire tout cela et je le fais au grand jour.
Bon, alors la dernière chose,
yes.
Philippe.
Yes.
Est-ce que Montpellier a vraiment besoin d'un Montpelliérain de souche comme maire?
Alors ça,
Frêche ne l'était pas, on s'en est très bien porté. Les Montpelliérains ne représentent que 20% de la population, et ils nous emmerdent. Donc,
c'est une très bonne question.
C'est le breton que
alors, je vais y répondre.
Alors maintenant, est-ce qu'on a vraiment besoin
Je vais y répondre avec humour. Sur un nombre de générations données, finalement, on n'est sûr que de la mer.
Alors là, on peut mettre le générique. Le loup, le renard et la bolette de Triade.
C'est dans 7 ans, je m'en dirai. Je m'en ai mis chaud, avancé dans le pré. Un jour, je m'en ai mis chaud. C'est dans le pré, avancé dans le pré, avancé dans le pré.